Voilà. Oui, ça va.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No, wounded, sir.
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosce?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa chiedisse? Come si fa chiedisse?
Bonjour à toutes et à tous, les cinéphiles du vendredi, bienvenue dans Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche avec fougue et finesse, comme toujours. À l'affiche aujourd'hui du cinéma qui prend le pouls de la mesure et de la démesure de notre humanité, avec nous Cathy dans le studio.
Eh bien bonjour Sophie, bonjour Sylvain, bonjour à toutes et tous.
Bonjour.
Et bonjour Sylvain. De l'autre côté de la vitre.
Bonjour.
Et de l'autre côté des ondes, c'est Alexis. Salut Alexis.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Ah bah, pas mal, ça va. Et vous, auditrice, auditeur ? Ouais, ok, ça va pas mal. On va discuter ensemble de la disparition de Joseph Mengele des Braises, avec toi Alexis. Et puis on va revenir sur deux films qu'on a déjà traités ici, mais avec un autre regard. L'homme qui rétrécit et Météore. Et puis on se laissera un peu de temps pour parler, évidemment, des rencontres des cinémas d'Europe. C'est un nouveau festival, c'est ça, qui arrive sur Aubenas?
Tout jeune.
Tout jeune.
27 ans, c'est pas très vieux.
Waouh, quelle fougue. Eh bien, c'est parti. On commence avec ce nom curieux de Mengele.
Josef, du bist doch nicht zur Fahndung ausgeschrieben. Du hast im Krieg deinen Dienst abgeleistet.
Was für ein seltsamer Nachname. Mengele.
La disparition de Joseph Mengele de Kirill Serebrennikov, qui propose de passer 2h15 avec un nazi, une ordure à tout point de vue. C'est l'adaptation du roman d'Olivier Guèze, La disparition de Joseph Mengele, qui avait eu le prix Renaudot en 2017. Alors j'ai lu des choses assez différentes.
Clivantes,
ouais. Très très clivantes. Mmh. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Est-ce que c'est... Voilà, mais est-ce qu'il t'a renversé? Est-ce que tu l'as trouvé intéressant? Est-ce que c'est trop esthétisant? Qu'est-ce que tu as à dire, Cathy, sur ce film?
Il y a un petit peu de tout ça, en effet. C'est vrai que, alors, pour représenter peut-être le réalisateur russe Kirill Serebrennikov, il nous a... Enfin, c'est un grand réalisateur pour moi. C'est quelqu'un d'assez... incroyable dans la technicité dont il fait preuve à chaque film. Ses précédents films, alors on l'a découvert nous plus particulièrement en 2018 avec L'Étau, mais il y avait eu Le Disciple en 2016, La Fièvre de Petrov qui est aussi une adaptation d'un livre qui est très très impressionnante, avec énormément de plans séquences. C'est quelque chose qu'il maîtrise particulièrement bien. Et puis il y avait La Femme de Tchaïkovski, en noir et blanc aussi, assez rude, comme celui-là, film, hein, La disparition de Joseph Mengele. En même temps, on parlait de ce monstre, comment en parler, ça reste... Bon, il y a l'inspiration du roman qui est apparemment incroyable aussi, à lire en particulier. Mais c'est vrai que voir le film, c'est quelque chose d'éprouvant, dans le sens où on parle d'un monstre, et là, il n'y a pas une volonté de la part du réalisateur d'excuser quoi que ce soit. C'est juste montrer un personnage qui est absolument persuadé que tout ce qu'il a fait était bien et nécessaire, et qui derrière part donc au Brésil, hein, enfin Brésil, il fait oui, il fait Argentine, Buenos Aires, enfin Brésil, donc aussi, et que c'est une fuite, et que derrière, toute sa vie n'est que fuite, persécution, folie, en fait, parce que il est tellement persuadé de tout ce que, enfin, que ce qu'il a fait était bien et nécessaire pour l'humanité, qu'il a fait avancer la médecine ou quoi que ce soit, enfin, bon, que en fait, on plonge avec ce personnage dans une espèce de folie, non pas douce, mais plutôt dure.
Ouais. Et pour toi, pourquoi, enfin, qu'est-ce que ce film amène? Pourquoi il a voulu faire ce film? Est-ce qu'il s'en est expliqué? Ou est-ce qu'on ressent, nous, en tant que spectateurs, quelque chose de particulier?
Je pense que c'est quand même un réalisateur qui aime se mettre en danger et qui aime la difficulté. Et que lui, quand il adapte aussi bien la fièvre de Petrov que celui-là, c'est aussi une manière de se donner une, comment dire, oui, un exercice de style, une difficulté.
Sur
un sujet comme ça, bien entendu, mais pourquoi pas, il y a d'autres sujets aussi, hein, pourquoi pas celui-là. C'est pas forcément, c'est montrer la monstruosité d'un personnage en réalité. C'est en tout cas, s'il y a quelque chose qu'on ressort du film, c'est se dire que ce Joseph Mengele est un fou. Quelqu'un qui n'a jamais eu conscience, mais comme visiblement la plupart des nazis, de l'horreur qu'ils étaient en train de commettre. Et donc voilà, c'est juste que nous, en tant que spectateurs, alors le film est très, très beau aussi, enfin, il y a un noir et blanc très différent de celui qu'il avait utilisé pour La femme de Tchaïkovski, qui est plus, avec des tons plus marqués, encore plus sombres, on va dire, mais c'est vrai que nous, en tant que spectateurs, on se dit, voilà, on assiste à la déchéance d'un homme qui a toujours cru que il était au-dessus de tout le monde, quoi.
Et sans forcément de mise à distance. C'est parce que je pense à un film, c'était l'année dernière ou il y a deux ans, La zone d'intérêt.
Oui.
Où là, il y avait vraiment un parti pris, c'est-à-dire de ne pas montrer l'horreur. En fait, que tout était justement en hors-champ. Toute la violence était en hors-champ, et pourtant, elle l'instillait partout. Enfin, c'est ce qui était terrible. Et là, j'ai l'impression que c'est très frontal.
Oui, là, c'est frontal parce qu'il a... pas pendant tout le film, mais il y a une partie dans le film où on se retrouve comme une espèce de petit film dans le film, où, parce qu'ils ont filmé hein, tout ce qu'ils ont fait aussi, voilà, donc...
En couleur.
Ouais, et là c'est la partie qui est colorisée, effectivement, où là on plonge vraiment dans l'horreur, mais la plupart du film, on est avec Joseph Mengele quand il a fui, donc après tout ça, et on est un peu à l'instar de La fièvre de Petrov, on rentre un petit peu plus dans ce qu'est le personnage, dans l'esprit du personnage, tout en... Mais tout ça, c'est quand même fait avec beaucoup de virtuosité.
Est-ce que toi, Alexis, qui n'a pas vu le film, est-ce que tu veux dire un mot, je ne sais pas, ou du réalisateur, ou est-ce que tu as quelque chose à dire?
Moi, j'avais vu... je ne sais pas si c'était son premier film, mais La femme de...
La femme de Tchaïkovski, non, c'était...
Ouais, que j'avais beaucoup aimé. Et c'est vrai que ce deuxième film, alors même en tant que programmateur, pour le coup... Je me suis beaucoup intéressé à ce film. Alors c'est pas forcément un film évident à programmer dans sa salle, mais qui mérite d'être vu, et en tout cas j'incite tous les spectateurs qui seraient intéressés par ce film là et qui ont déjà vu la femme de Tchaïkovski d'aller se diriger vers ce film, en tout cas.
Et faire aussi parler de l'acteur là, Auguste Diehl, qui est un acteur allemand qu'on a vu dans plusieurs films comme Inglourious Basterds, comme le jeune Karl Marx, voilà, Une vie cachée aussi de Terrence Malick. Il a même tourné pour Margaret von Trotta. Ça fait partie de la rétrospective des Rencontres du cinéma d'Europe, mais il est totalement transformé dans ce film. Hein. Son visage, ses expressions, on a énormément de mal à le reconnaître. Hein. Il a un rôle de composition assez incroyable. J'ai dit incroyable plusieurs fois, mais bon, voilà, c'est voilà.
La disparition de Joseph Mengele.
C'est l'inspiration du jour.
Qui est à voir au Teil en ce moment. Alors un autre sujet d'histoire plus contemporain, celui-là, dont le cinéma s'empare, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Il y a, qui va sortir, Dossier 137, qui sera visible pendant les rencontres des cinémas d'Europe, de Dominique Moll, dans lequel une inspectrice de l'IGPN, Léa Drucker, tente de démasquer les auteurs de violences policières en marge des manifestations, donc de 2018. Et puis, il y a cet autre film qui vient de sortir, Les Braises.
C'est qu'on est plus de 300 000 depuis ce matin.
Le groupe Facebook sur lequel je me suis inscrit.
Ah, sur la hausse du gasoil.
Il y a même un rassemblement qui se prépare samedi.
Il y a une manif ?
Oui, j'ai envie d'y aller.
C'était bien.
C'était beau. Je sais pas comment dire, c'est notre pays, quoi.
Ça sert à rien ce que vous faites là. Je veux dire, c'est pas de ta faute, mais ça changera rien du tout.
J'ai envie de croire qu'on peut essayer de rendre le monde moins con.
Moi, je vais sur un rond-point, j'apprends, je rencontre des gens, je lis, j'écoute.
Et c'est à nous, maintenant, d'être endurants.
On va casser les couilles à tout le monde avec ces gilets jaunes.
Les Braises de Thomas Kruithof, qui avait fait Les Promesses, avec, on l'a entendu, Virginie, Efira, Arié, Wortalter, notamment. Un film qui semble resserrer sur l'intime pour extraire un peu tout le jus politique. Alexis, tu as vu ce film et tu voulais en parler.
Ouais, j'ai vu ce film et bon, là c'est changement d'ambiance complet pour le coup. Et en fait, bon, donc c'est réalisé par Thomas Kruithof et moi j'étais interloqué un petit peu par déjà le titre qui est Les Braises et je veux dire même moi je trouve que c'est un beau titre pour ce film-là parce que alors je voulais faire le parallèle. Les Braises, ce sont donc les restes du feu qui continuent à brûler doucement.
Eh bien, Alexis, tu viens de nous quitter, ou alors tu as un double appel, mais on ne peut pas décrocher pour toi, donc il faut faire quelque chose. On va, on essaiera de te reprendre tout à l'heure. On va passer alors à un autre film, Alexis. On te reprend tout à l'heure, on l'espère. Alors on va passer au film suivant que toi tu as vu, Cathy, et dont je pense que c'est Olivier qui en avait parlé. Le film de Yann Kounen, L'homme qui rétrécit.
C'est pas possible. Il y a un truc qui va pas là.
T'as peut-être un peu maigri ?
J'aspire. 1,76. Tu rigoles ? On se tasse tous un peu avec l'âge, tu sais, c'est normal.
De 4 cm ?
Alors, L'homme qui rétrécit est réalisé en effet par Yann Kounen. C'est une adaptation d'un roman de Richard Matheson, très, très connu. Et le film avait, le livre avait déjà été adapté au cinéma aux États-Unis, je crois, en 1957. Là, on retrouve Jean Dujardin dans le rôle principal, accompagné de Marie-Josée Croze et Daphné Richard. Qu'est-ce que raconte L'homme qui rétrécit ? Ça raconte l'histoire de Paul, qui est un homme ordinaire, qui travaille dans une construction navale, qui est marié, père de famille. Et puis, petit à petit, il se rend compte qu'il rétrécit. Il passe d'une taille normale à une taille en dessous, et ainsi de suite. Et puis, il fait plein d'examens. Malheureusement, il n'y a absolument rien qui ne se révèle vraiment concluant. Et il va se retrouver minuscule au milieu d'un environnement plus qu'hostile, en fait. Moi, j'étais curieuse de voir cette adaptation. Alors, c'est vrai que visuellement, c'est très réussi. Le film pose plein de questions sur ce rétrécissement, qui est un peu une métaphore.
Sur la place de l'homme dans l'univers.
Exactement, sur la place de l'homme dans l'univers et sur cette fragilité de notre existence. Maintenant, est-ce que
t'étais convaincue par ce film?
Convaincue, je pense que quand on voit le premier, enfin en tout cas la version originale que moi j'aimerais bien revoir, j'ai pas pris le temps de la revoir depuis, je ne sais pas, enfin en tout cas c'est bien de remettre ce sujet, et je suppose que c'est l'intention du réalisateur de remettre ce sujet un petit peu au goût du jour pour repositionner qui on est face à toute la biodiversité dans laquelle on évolue. Voilà, pour autant, quand le film se finit, on reste quand même un peu sur sa fin, en se disant « ouais, ok ».
Et alors ?
And so what ?
Ouais. Et Ian Coonan, mais j'ai l'impression qu'il est... Enfin, j'en sais rien, j'ai pas lu à ce sujet, mais en tout cas, il a fait pas mal de films justement sur ces mondes parallèles. Il est très très attiré. Déjà, Blueberry, c'était western un peu pseudo-chamanique.
Psychédélique.
Il y avait d'autres mondes. L'histoire secrète des Dalai Lama, Ayahuasca. Donc c'est vraiment des sujets qui l'intéressent. Et puis il va sortir là, un film d'animation qui s'appelle Epiphania. Aussi un peu comme ça, à la croisée, on va dire, des mondes, voire de l'ésotérisme et du mysticisme.
Après, c'est vrai que ce qui est un peu... Enfin, après, c'est spoilé, donc je vais pas développer trop. Mais c'est son rapport aussi avec sa famille, moi, qui me posais question. Et comme j'ai pas revu le premier, je sais pas si c'est exactement ce qui se passe dans le film de 1957. Mais bon, voilà, c'est vraiment un homme qui se retrouve seul face à plein de petites bêtes qui font froid dans le dos. On se dit, ah, et toute petite l'araignée là-bas, c'est sympa, mais quand tu trouves plus petit que l'araignée, c'est un autre délire déjà.
L'homme qui rétrécit. Toujours à l'affiche à Aubenas, Auteuil et à Rosières. Et on a récupéré Alexis, tu es là.
Oui, je suis là.
Oui. Donc tu commençais à parler des braises et tu nous disais que donc ce film, Les braises de Thomas Kruithof, qui avait fait Les promesses, c'était un titre de film intrigant.
Intrigant, ouais. Et en fait, j'étais en train de raconter un petit peu juste. On suit le couple de Karine et Jimmy qui était un couple qui vit tranquillement dans une petite ville. Et puis elle, c'est deux personnages qui bossent, qui ont un travail de classe moyenne, on va dire des gens un petit peu lambda. Et puis il y a le mouvement des Gilets jaunes qui arrive comme ça. Karine, qui est jouée par Virginie Fira, elle se découvre militante investie. Et là, c'est tout bascule, en fait. Ça bouleverse le quotidien, le couple, la vision du monde, totalement. Et c'est vrai que ça peut poser question, même dans la vie quotidienne, sur l'engagement, nous, en tant que citoyens, dès qu'il y a quelque chose qui va se révéler, un mouvement, quelque chose qui nous touche, ça peut toucher le quotidien. Et moi, ce que j'ai adoré donc dans ce film, c'est que justement, il y a une tension qui se crée entre le collectif, qui est donc ce mouvement, et l'intime, qui est le quotidien personnel. Et en fait, dans ce film, on est à la fois dans la rue, donc forcément sur les ronds-points, mais aussi à la maison, donc on voit l'impact des deux. Et dans ce film-là, il y a beaucoup, beaucoup de silence, beaucoup d'incompréhension entre les deux. Parce que le mari ne comprend pas ce qui se passe, voilà. Et pour moi, c'est un film qui montre comment l'engagement politique peut vraiment percuter sur la vie privée. Et pour moi, le film ne caricature jamais et ne juge pas. Et ça, c'est hyper important parce que c'est vrai que sur ces mouvements-là, on peut très vite juger d'un côté ou d'un autre. Et là, c'est pas ce que fait le film et je trouve ça important. Et si je peux vous donner une petite anecdote, le film il a été tourné en Charente, donc sur des vrais ronds-points, avec des figurants qui étaient locaux. Et je trouve ça important, ça apporte vraiment quelque chose, une authenticité sur le film qu'on ressent. Et ça fait presque une vérité de documentaire. Et je trouvais ça intéressant. Et donc moi j'incite les gens vraiment à venir parce que c'est un cinéma social et engagé pour le coup.
Voilà. Et il sera à partir de mercredi à Privas, à partir de mercredi 12. Est-ce que tu as vu déjà Dossier 137, toi, Alexis?
Alors, l'autre film, on a mon premier, mais j'ai pas eu l'occasion d'aller le voir encore. J'ai que des bons retours sur le film, par contre.
Et toi, Cathy, est-ce que tu as vu ?
Oui, je l'ai vu à Cannes, à Dossier 137.
Donc, Dossier 137, on en parle, hein, puisque c'est un film de Dominique Moll qui va sortir là, qui, dans 2 semaines, et qui parle aussi, qui traite de ce mouvement des Gilets jaunes.
Oui, mais alors sur la police des polices, quoi. On est sur un autre niveau de narration, en fait, hein, où il y a des enquêtes, où on sait bien qu'il y a eu des dérives policières pendant... ces manifestations, et que là, on a un personnage interprété par de Léa Drucker qui enquête sur des policiers et voir s'ils ont véritablement dérivé ou pas.
Mmh. Ce sera à découvrir pendant les rencontres.
Pendant les rencontres, exactement. Mmh.
Autre film dont on a déjà parlé ici, c'était toi d'ailleurs, Cathy, qui avait parlé de Météore. Et Alexis, tu l'as vu et tu voulais nous en reparler. Météore de Hubert Charuel. Peut-être qu'on a un petit son, là ? Non, on n'a pas de petit son. Mais alors, mais qui a fait les... mais si on a un son, c'est Alexis qui nous en parle. Oui, Alexis, on t'écoute.
Oui, alors je ne vais pas refaire l'histoire, etc. Je vais juste dire un petit peu ce que j'en pense. Et moi, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est vraiment la sincérité du film. Je l'ai vu a posteriori un petit peu en retard. Et en fait, on sent que le réalisateur, pour moi, il parle tout de suite de ce qu'il connaît. Donc la ruralité, la débrouille, l'amitié entre les mêmes gars du coin. Et c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de très très juste dans ce film, presque pudique, et dans la manière de filmer ces hommes-là, je trouve que ça reste assez pudique. Et pareil, je trouve que dans ce film-là, il n'y a pas de jugement, il y a juste la vérité de leur vie, et on a cette je trouve que c'est hyper intéressant de filmer ce film à, je dirais presque à haute. C'est à hauteur de vie, quoi. On est vraiment près d'eux, et je trouvais ça intéressant. Et vu, le film est, alors petite anecdote encore, mais le film a été filmé dans le Grand Est, en pleine campagne, et pour moi ça se voit, en fait. Il y a les paysages qui sont là, et je trouve qu'il y a une vraie présence. Et en plus, donc, je pense que Cathy l'a dit, mais le film, il a été présenté sur la section Un certain regard, et c'est vrai que du coup, c'est une bonne reconnaissance pour un film qui parle de ces invisibles-là qu'on montre pas beaucoup au cinéma. Et ce que je peux en dire, c'est qu'au final, ça reste un film humain, comme Les Braises, de toute façon. Et ça reste sincère, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film-là, et c'est ce que j'aime beaucoup en règle générale dans le cinéma, c'est que ce cinéma social, il est hyper important, il peut parler à beaucoup de gens, et beaucoup de nombreuses personnes peuvent se retrouver dans ces films. Par contre, ce que je peux regretter, c'est forcément le nombre d'entrées qui fait actuellement, et je pense qu'il y aurait beaucoup... mériterait d'être beaucoup plus visible dans les cinémas, mais que les spectateurs se déplacent, parce que le cinéma social comme cela, ça peut parler à beaucoup de gens. Voilà.
Météore, et il sera encore demain, samedi, et mardi au foyer à Rosières. Juste une question, quand tu parles de sincérité, c'est quoi la sincérité au cinéma ? Ça, c'est une question qui m'interpelle.
Ouais, la sincérité, c'est ce qu'on donne, je dirais, c'est ce qu'on donne de soi, c'est ce qu'on donne de nous.
Mais qui est-ce que c'est parce que les acteurs, forcément, enfin, ou alors c'est le sujet,
je sais pas. Déjà les auteurs, les cinéastes. Ouais.
Exactement, c'est ce que le sujet, je pense que le réalisateur fait parler. Alors peut-être pas ce qu'il pense, mais en tout cas, le sujet, il le traite avec sincérité. Il n'y a pas de mensonge. On sent que ça vient des tripes.
À l'inverse, quel cinéaste, par exemple, ne serait pas sincère ? Est-ce qu'il y a du cinéma qui n'en est pas ?
C'est une bonne question. C'est une bonne question.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup d'avoir joué.
Vous avez 4 heures.
En tout cas, ouais, merci. On entend ouais, ce cinéma qui est pour toi important, un cinéma social ancré dans le réel, qui donne une, voilà, un autre regard, enfin, qui offre un autre regard à ce qui se passe, notamment ici, par exemple, chez nous. Merci. Donc, Météore de Hubert Charuel, qui avait fait Petit Paysan, avec Paul Kircher notamment, Salif Cissé et Idir Azoulay. Et bien, il nous reste.
Hein, c'est la révélation, Idir.
Idir Azoulay, ah oui. Révélation de...
Bah de tout. Enfin, de tout. Depuis qu'il fait du cinéma, c'est un vrai... c'est une... bah là aussi, c'est, enfin, je rejoins, même si on n'a pas 4 heures pour débattre de ton sujet là, mais je rejoins Alexis sur cette sincérité dont lui fait preuve, parce qu'il vient de la rue, il a galéré, et forcément, pour interpréter un personnage comme ça, il est parfait.
Il nous reste 10 minutes, super, pour parler des prochaines rencontres des cinémas d'Europe avec toi, Cathy, puisque tu en es la programmatrice et puis la grande instigatrice. Alors, ces rencontres des cinémas d'Europe, parle-nous-en un petit peu des focus, de là où ça va nous envoyer.
Je tiens à préciser quand même qu'au niveau de la programmation, cette année, on a composé beaucoup plus avec Christophe du Navire. On a beaucoup plus échangé quand même sur les films et sur les invités. Et puis que la partie jeune public, elle est pratiquement assurée par Véronique Borges, qui est médiatrice de la Maison de l'Image. C'est important de le signaler quand même. Même si, en soi, je peux avoir le final cut en tant que directrice artistique, mais il n'empêche que voilà, on compose aussi avec.
C'est un travail d'équipe.
Un travail d'équipe, exactement.
Pour donc ces 27e rencontre des cinémas d'Europe, je n'ai pas dit qu'il aura lieu, pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, du 15 au 23 novembre à Aubenas.
Et Valls, et Tueil.
Et Tueil.
Et Lussas.
Et Lussas, bien voilà, sûr.
Oui.
Pam, dans ton bec. Vas-y.
Non, mais c'est important de parler aussi de ces séances autres. Décentralisées, oui. Parce que comme des fois, c'est un peu compliqué au Navire d'accéder à certains films par X raisons. Voilà. Il y a aussi ces séances décentralisées qui peuvent permettre d'avoir un petit peu une bouffée d'air et de sortir un peu d'Aubenas. Et puis, ça nous permet d'étendre le festival sur le territoire. Donc, c'est important.
Alors pour ce festival, vous avez décidé d'un voyage en Pologne.
Oui, le voyage en Pologne, il est né de mon déplacement l'année dernière au festival du film polonais de Gdynia sur la mer Baltique, où j'ai rencontré à la fois Joanna Lapinska, la directrice artistique qui va nous faire le plaisir de venir cette année, et j'ai découvert plein de films polonais, de qualité, vraiment, j'ai été assez impressionnée par le nombre de films qui étaient programmés lors de ce festival, et là, il y a une compétition, et moi, je faisais partie d'un jury SICAE, donc la Confédération Internationale des Cinémas d'Art et Essai, donc une grosse partie est quand même basée en Europe, et j'avais 14 longs-métrages, des seconds longs-métrages, en fait, à découvrir, et j'ai été vraiment impressionnée par cette programmation. D'où l'idée d'inviter Joanna pour qu'elle nous fasse une carte blanche. Et donc, elle a choisi 5 films, des longs et des courts-métrages. Et puis, surtout, ce dont je suis très fière, c'est d'accueillir Agnieszka Hollande, que je rêve d'inviter depuis des années parce qu'on suit son travail. Hein. Voilà, tous les
incroyable.
Films précédents. Ouais.
Incroyable.
Ouais.
On a l'impression qu'elle fait le grand écart aussi. Entre quelquefois la réalisation de House of Cards, Trem, donc dans des séries, et puis des films comme celui qu'on a pu voir l'année dernière.
Il y a le Green Border.
Green Border.
Oui, oui, oui. Et là, c'est encore différent. Enfin, c'est vraiment une cinéaste qui sait se renouveler et qui propose à chaque fois un film différent qui a aussi une maîtrise de la caméra assez folle aussi. Et là, dans Franzka, on revient sur le personnage de Franz Kafka dans sa jeunesse, qui de toute façon n'a pas eu le succès dans sa jeunesse, mais après sa mort. Donc, avec quelque chose de très très moderne dans la réalisation, c'est ce que j'apprécie. Voilà, donc ça c'est une grande fierté, c'est en plus d'accueillir Agnieszka Hollande. pour ce festival, ouais.
Génial. Et donc, ouais, un film, enfin, le cinéma polonais vraiment à découvrir à travers...
Alors, une petite partie, malheureusement, oui. Parce qu'on n'a pas consacré l'entièreté de la programmation au film polonais. Mais en tout cas, bon, voilà, il y a... Il y a la présence donc, de Johanna et d'Agnieszka Holland, mais Johanna nous expliquera un petit peu aussi à travers sa rencontre, qui sera le dimanche soir, dans la continuité de la projection du film Brother, qui était un film en compétition au festival cette année, de nous parler de la production polonaise, comment ça se passe, pourquoi chez nous il y a peut-être deux films qui sont distribués par an, alors qu'il y a une production quand même très très importante du cinéma polonais.
Et alors intéressant, tu nous disais là hors micro avant, parce que ça les gens ne le savent pas forcément, c'est des films qui n'ont jamais été montrés par exemple en France, mm-hmm. et donc là, très concrètement, là, pour les rencontres des cinémas d'Europe, vous êtes obligé de faire les sous-titrages.
Exactement. Oui, oui. Il faut. On a des versions qui sont anglaises, puisqu'elles sont, quand même présentées en compétition à Gdynia en sous-titres anglais. Pas tous d'ailleurs, mais la plupart. Et bah oui, là, il faut qu'on fasse aussi ce travail de sous-titrage des films avant de pouvoir les montrer aux spectateuristes des rencontres.
Des perles, des pépites, donc jamais vues à voir pendant les rencontres.
À découvrir, ouais.
J'ai l'impression, mais ça c'est peut-être tout à fait subjectif, qu'il y a beaucoup plus de films européens non français, je veux dire, que par exemple l'année dernière ou il y a 2 ans. Est-ce que c'est...
Oui, c'est vrai. C'est, je pense que c'est un peu l'influence aussi de Europa. Enfin, on voulait aller vers le soutien de Europe Média. Bon, mais c'était aussi une volonté d'accentuer quand même les films européens, parce qu'on peut aussi voir que sur l'ensemble de l'année, on a une production française qui est forte. Bon, ben, bien sûr qu'il faut continuer à soutenir pendant ce festival, mais ça s'appelle les rencontres des cinémas d'Europe, et on est sincèrement persuadé qu'il faut que les publics puissent découvrir des œuvres venant d'Europe et pas forcément que de France.
Quelle grande chance, c'est pour ça qu'on vient et qu'on rencontre régulièrement, pas plus tard qu'hier, encore dans ce studio, des personnes qui posent des jours de congé pour aller voir le plus de films possibles, justement venant d'horizons complètement, enfin justement, inconnus en France.
Mm-hmm. Enfin, oui, ou très peu médiatisés. Et c'est vrai que ça a été le cas particulièrement cette année, où beaucoup de films sont sortis également dans l'année, qui n'arrivent pas à trouver une place dans le nombre. Bon, on le rappelle, il y a 15 à 20 films différents qui sortent chaque semaine en France. Donc, c'est très difficile pour les salles de cinéma d'absorber toute cette offre. Et forcément, il y a des choix et des pas de côté qui sont faits rarement. Et donc là, c'était important que pendant ce festival, on puisse rattraper quelques films qui ont toute leur place et qui sont à montrer au...
Tu penses auxquels, par exemple, en disant ça?
Par exemple... alors, c'est Au rythme de Vera, mais c'était pas ça le titre. Enfin, c'est un film allemand. Il y a Neverend, un film qui est espagnol à la base et qui a été tourné en anglais. Enfin, il y en a pas mal. Hein. Ouais.
D'autres grandes...
Mikap, un film irlandais. Il y en a pas mal, ouais.
J'ai l'impression qu'on va se régaler.
J'espère.
Autre grande ligne directrice du festival?
Toujours notre envie de parler des métiers du cinéma, et là à travers deux rencontres qu'on appelle rendez-vous avec, mais ce sont en fait comme des masterclass ou leçons de cinéma. Enfin, l'idée c'est de pouvoir parler d'un métier. Et cette année, on va parler de la coordination d'intimité qui est de plus en plus nécessaire et importante sur les tournages.
Tu dis juste en un mot ce que c'est ?
Alors, la coordination d'intimité, ce sont des personnes qui travaillent au plus près des cinéastes et des acteurs, actrices, sur toutes les scènes intimes, un peu difficiles à réaliser. Donc l'année dernière, par exemple, on montrait le film Maria de Jessica Palud, qui revenait sur la carrière de Maria Schneider et sur le traumatisme vécu sur Le Dernier Tango à Paris, puisqu'elle ne savait absolument pas ce qui allait se passer dans la scène suivante. Donc entre les années, ben voilà, les années 70 et maintenant, il n'y a que maintenant, c'est-à-dire depuis septembre 2025, qu'une formation reconnue est mise en place pour reconnaître la nécessité d'avoir des coordinateurs d'intimité sur les tournages, parce que, bah, ok, les acteurs, actrices, ils sont censés savoir jouer, entre guillemets, la comédie, mais bon, se retrouver sur une scène intime avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est pas forcément très très évident, quoi.
Et alors, où est la sincérité là-dedans? Mais c'est une... Une petite parenthèse.
C'est du jeu, c'est du jeu, voilà, oui, c'est ça, c'est sûr. Donc, Sarah Camidian viendra nous parler de son travail de coordinatrice d'intimité. Et puis, nous recevrons aussi, je suis très contente de l'accueillir, Pauline Seglon sur le travail de production. À quoi sert un producteur?
Ah, excellente question, merci.
Voilà, et donc elle nous expliquera quel est son travail, surtout qu'elle a un parcours intéressant et qu'elle est venue à la production il n'y a pas très très longtemps, et c'est comment, avec tout ce qui nous est proposé quand même au cinéma maintenant, comment on fait le choix d'aller dans la production cinématographique.
Merci, ça y est, temps est imparti.
Il y a plein de choses à retrouver sur le programme, sur le site internet www.rencontrecinema.eu.
Merci beaucoup, Cathy, puis on aura l'occasion d'en reparler. Et bien sûr, vous le savez, nous serons, nous, Fréquence 7, alors cette année à la médiathèque, pour donner la parole aux invités tous les jours à midi et 17h. Juste un mot, c'est aussi le festival Bollywood, mais on en a parlé en ce moment au Vence. Voilà, des bisous, merci à tous, ciao.
Voilà.